Il y a aux États-Unis, à Ferguson et ailleurs, un essor des groupes suprémacistes blancs qu'on n'avait pas connus depuis les années 50. Et cet essor me semble directement lié à l'arrivée à la Maison-Blanche de Trump, qui a manifesté une forme d'indulgence à l'égard de ces groupes. On l'a vu à Charlottesville pendant l'été 2017 et à Ferguson, où il y a une longue histoire de tensions entre la police et la population noire, bien avant 2014. C'est une histoire qui remonte au début du XXe siècle dans cette région-là. Eh bien, ces groupes, en effet, sont à l'offensive avec une police et avec également des autorités fédérales du côté du ministère de la Justice qui ferment les yeux sur ce qui se passe ici, comme dans d'autres villes américaines.
Lesquelles, par exemple? Est-ce que c'est une situation véritablement généralisée? Est-ce que c'est localisé aux États-Unis, Pape Ndiaye?
Alors, c'est du côté de Ferguson, c'est bien le cas. Dans le sud des États-Unis, on a plusieurs cas du côté de la Louisiane, dans le Mississippi, en Caroline du Sud également. Il y a eu les événements de Charlottesville, bien entendu. Il y a des groupes également dans l'Ohio et dans ces États du Midwest qui sont très actifs du côté de l'extrême droite. Et donc, il y a un peu partout, en effet, une résurgence de ces groupes racistes qui se sentent, à tort ou à raison, protégés en tout cas par le gouvernement fédéral et par le président américain.
Une sorte de caution, juste pour le dire en un mot, Charlottesville, c'était une manifestation de suprématistes blancs qui avait donné lieu à des affrontements. On évoque maintenant cette question, mais alors cette question transposée dans le cadre français, la question noire transposée dans l'histoire de France et dans les représentations à la faveur d'une exposition dont vous êtes co-commissaire, Cécile Debray. Et si vous pouviez nous expliquer en quelques mots ce que vous avez cherché à faire au musée d'Orsay, donc à Paris.
Oui, peut-être en préambule, parler d'un projet ambitieux et donc un projet avant tout collectif pour le musée, puisque c'est une exposition sur laquelle nous travaillons à quatre commissaires, donc avec Stéphane Guégan, Isole Pludermacher et Denise Meurel, qui a été l'initiatrice, je dirais, du projet avec son exposition à New York, à la Wallach Gallery. Le projet consiste donc à montrer ou à parler en tout cas des modèles noirs représentés dans l'art du 19e siècle jusqu'à Matisse, donc jusqu'aux années 40.
Pourquoi
ces dates? Alors, parce que d'abord, elle recouvre la chronologie de nos deux musées, le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie, et elles se sont mises en place en fait en partant d'abord de ce projet américain, celui de Denise Meurel, qui a fait une thèse sur la question du modèle noir chez Manet et Matisse. Et donc, nous avons pensé que pour évoquer ce sujet, il fallait en France, de manière inédite, en tout cas, l'ouvrir et expliquer, je dirais, tout le contexte historique sur quelque chose qui est très peu connu et très peu montré en France.
Pape Ndiaye.
Et puis, il y a une chronologie historique qui se superpose à cette chronologie artistique, qui est celle de l'abolition de l'esclavage pendant la Révolution française et de la Révolution haïtienne. C'est très frappant de voir l'importance de la révolution haïtienne dans cette exposition, jusqu'à l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire jusqu'à l'installation très visible en France du monde noir américain. Ça, c'est la dernière partie de l'exposition où on voit bien comment les Noirs américains deviennent très, très centraux dans la vie artistique française, parisienne en particulier, après la Première Guerre mondiale.
Alors on va prendre un tableau mythique, l'Olympia de Manet. Comme on est à la radio, je vais vous demander de le décrire en quelques mots, Cécile Debray, et de nous dire finalement pourquoi vous avez choisi ce tableau comme l'un des emblèmes de cette exposition.
Oui, alors Olympia, il faut se souvenir du sujet. Hein. C'est un tableau qui a fait scandale en 1865 quand Manet l'a présenté au public. Montre en fait une prostituée regardant de manière très frontale le public, allongée sur son lit luxueux, nu. Et elle est accompagnée par sa domestique noire qui lui présente un bouquet et un chat noir. Donc le tableau est assez simple. Il s'inscrit dans une longue tradition orientaliste, hein, où l'on voit, c'est presque un schéma de la peinture orientaliste, où on voit le corps blanc d'une femme, souvent érotisée, avec son contrepoint, sa servante noire, dans des scènes de toilette. Là, il s'agit.
Mais ce tableau a particulièrement fait scandale, Cécile Debré.
Oui, il a fait scandale parce que Manet a abordé le sujet de manière très très crue, en faisant le portrait d'une prostituée et se montrant comme telle, avec par ailleurs un traitement formel très particulier, c'est-à-dire une certaine forme de on lui a reproché, le corps est traité de manière très très réaliste et presque comme un corps plat, très très dessiné, magnifié ou gracieux, et il a à la fois fait scandale et il a à la fois fédéré toute une jeune école de peinture, les futurs impressionnistes, et on peut dire que ce tableau est une sorte d'icône pour la modernité à venir en peinture.
Si bien que j'ai découvert qu'il y avait une Olympia de Manet de Gauguin.
Oui,
le tableau avait été copié par Gauguin, Papendiaï. Alors l'idée, c'est de se décentrer. C'est une exposition qui représente une manière de voir absolument unique en France. C'est, à ma connaissance en tout cas, la première fois qu'on fait ça. L'idée, c'est de regarder ce tableau et de se dire, voilà, il y a deux personnages. Il y a l'or sur ce tableau, l'Olympia de Manet. L'or, c'est donc la femme qui a servi de modèle à la servante. Qui était-elle ?
Donc l'exposition invite évidemment à regarder ces modèles noirs que l'on ne voit pas forcément. Et l'or, c'est cette femme qui est située, qui présente le bouquet de fleurs derrière Olympia. Eh bien, elle fait partie de ce monde du 19e siècle, qui est un monde de femmes qui sont occasionnellement des modèles, mais qui sont aussi nourrices, qui peuvent être domestiques, qui peuvent être également prostituées. Dans ce Paris populaire, qui est aussi un Paris noir au 19e siècle, nous avons hésité à propos de l'expression « y a-t-il un Paris noir au 19e siècle » comme on le dit couramment pour les années 20. Eh bien oui, il y a tout un monde.
Qu'est-ce que ça recouvre alors ?
Eh bien c'est un monde de plusieurs milliers de personnes, des femmes et des hommes, qui viennent des Antilles comme d'Afrique de l'Ouest, à cette époque c'est plutôt les Antilles, et qui survivent de petits métiers, au fond, permettent de tracer justement les contours des contours professionnels et sociaux, si vous voulez, dont l'or est tout à fait représentative. Elle habitait rue Vintimille dans le 11e arrondissement. On a retrouvé, grâce au cadastre, Isolde Pludermacher a retrouvé le cadastre pour montrer qu'elle vivait dans un petit logement avec beaucoup d'autres personnes dans le même immeuble. Bref, ce Paris populaire-là est aussi un Paris noir.
L'histoire du racisme anti-noir, l'abolition de l'esclavage en France, elle se fait sur quel fondement intellectuel, Papendiaï ?
Elle se fait en 1794, en tout cas la première. La France a quand même une originalité, c'est d'avoir aboli deux fois l'esclavage. En 1794, cela se fait à la fois en conséquence de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme, tout de même, mais aussi, bien sûr, de la Révolution haïtienne, des esclaves qui ont arraché eux-mêmes leur liberté à partir de 1791. Et donc, 1794, la première abolition. Napoléon rétablit l'esclavage en 1802. Et la dernière abolition, l'abolition définitive, c'est 1848. Dans l'exposition, les deux abolitions sont bien présentes.
Et alors, donc, lorsque l'on voit ces deux abolitions, qu'est-ce qu'elles signifient dans la représentation qu'on se fait des Noirs? Alors, a priori, l'idée, c'est une idée universaliste. Formellement, réellement, évidemment, les choses vont être différentes. L'égalité n'est pas acquise au lendemain de cette abolition.
Nulle part, ni en France, ni ailleurs, l'abolition de l'esclavage n'a pour conséquence une égalité. Au contraire, d'autres formes d'exploitation et de domination se mettent en place après les abolitions, parfois de manière rigoureuse, comme aux États-Unis, parfois de manière beaucoup plus tortueuse, comme en France. Mais le moment de l'abolition, il est bien célébré par la première comme par la seconde république comme étant un grand moment universel. Ce qui le montre bien dans l'exposition, c'est le tableau de Biard, tableau officiel de 1848, où l'on voit le représentant de la République annoncer aux esclaves leur liberté, soit en Martinique, soit en Guadeloupe, et on voit les esclaves qui s'exclament, qui s'embrassent, comme si au fond c'était la République qui avait accordé généreusement l'abolition, alors que l'on sait par ailleurs que les esclaves se sont battus pour cette abolition.
Et on voit un autre tableau dans cette exposition, Cécile Debré, qui a trait à l'esclavage, où on voit la punition d'un esclave. Peut-être le décrire en quelques mots, Cécile Debré.
Oui, c'est un tableau assez frappant, un peu scandaleux, où on voit donc
avec toujours la duplicité de la représentation,
exactement,
à la fois dénoncée mais une forme de voyeurie
d'histoire qui a été peint donc en 1843, où l'on voit un noir attaché à quatre piquets en train d'être corrigé par un maître esclavagiste et donc toute un attroupement autour de cette scène. Donc c'est une scène horrifiante qui est là aussi pour faire un coup d'éclat dans un salon, mais qui est peinte par un artiste qui se veut du côté de l'abolition. Peut-être dire un mot quand même sur le principe de l'exposition qui est tout à fait nouveau, me semble-t-il, qui consiste à prendre effectivement cette approche de la question de la présence des communautés noires au XIXe siècle et au XXe siècle dans le domaine de l'art. Et donc on approche la question du modèle noir comme une sorte de galerie de portraits où notre travail avec le conseil scientifique de cette exposition a consisté finalement à aller redonner une existence individuelle et historique à ces modèles qui ont été frappés d'invisibilité et d'anonymat. Donc c'est quand même le grand principe de cette exposition qui pourrait se lire comme une forme de galerie de portraits où on va découvrir ces personnages, Laure ou encore Madeleine, la fameuse femme dépeinte par Madame Benoît, qui ouvre l'exposition, jusqu'au modèle de Matisse dans les années 40, qui jusque-là n'ont jamais été mises en avant.
Mais là aussi, il y a une duplicité à l'égard du corps noir, parce que vous parlez d'invisibilité, mais à la fois aussi, il est montré, il est animalisé. Alors, au travers des os humains, les os humains ne sont pas sujet, ils sont à peine esquissés. Il y a un film, je crois, dans l'exposition qui y a trait, mais on voit qu'il y a effectivement un double regard, à la fois un regard qui ne voit pas et un regard.
Exactement, je pense que la difficulté et en même temps l'équilibre que nous avons cherché à atteindre dans ce projet, c'est vraiment d'avoir un regard d'historien d'art et d'historien, c'est-à-dire de conserver toute l'ambivalence, l'ambiguïté qu'il y ait à des contextes qui sont à chaque fois très spécifiques, hein, depuis le 19e jusqu'au 20e siècle. Et évidemment que lorsque Verdier représente un châtiment, il y a une forme de voyeurisme, mais en même temps il y a une forme de position politique, hein, par rapport à ce sujet. Quand on regarde le portrait de Madeleine, donc on voit un portrait d'une femme très belle, très 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 digne, dans la posture du portrait aristocratique et pourtant avec la poitrine dénudée. C'est une esclave qui vient d'être affranchie. hiérarchie et qui est domestique. Donc il y a toute cette ambiguïté que l'on ne cherche absolument pas à masquer, au contraire. Et on a essayé de, à la fois de proposer, je pense, un magnifique parcours, parce que les œuvres sont très belles. Ce sont vraiment des tableaux sur, en plus, des artistes extrêmement importants, puisque on passe de tableaux de Géricault par Manet, en passant par Cézanne jusqu'à Matisse. Et par ailleurs, il y a eu un énorme travail, et Pape Ndiaye le sait bien, je dirais, de clarification du contexte historique par un très grand nombre de textes dans l'exposition.
Une réaction, Pape Ndiaye, par rapport à cette duplicité?
Oui, cette ambivalence que Cécile Debray souligne, elle nous semble importante parce que elle présente ce monde noir vu par les artistes, vu par les sculpteurs et les peintres, et les photographes également, d'une manière, à mon sens, plus intéressante, plus subtile que ce qu'on connaît mieux déjà par plusieurs expositions dans le passé en France, c'est-à-dire les expositions sur les imageries populaires, sur les publicités de type Banania, sur les zoos humains, tout ce qui dépeint les noirs.
Il faut peut-être dire, excusez-moi, je vous ai coupé, Pape Ndiaye, ce que sont les zoos humains.
Oui, donc à partir de des années 1870, des exhibitions de sauvages africains, c'est comme ça qu'on les appelle, maintenus dans des enclos comme des animaux, et que les Parisiens, par exemple, et d'autres Européens peuvent venir voir, admirer, entre guillemets, comme s'il s'agissait d'un zoo.
Des gens s'en émeuvent.
Oui, bien sûr, cela fait scandale dès l'apparition du premier zoo humain en 1877 à Paris. Et puis, à partir du début du XXe siècle, ils deviennent plus rares jusqu'à plus ou moins disparaître.
Mais pas interdits.
Non, jusqu'à plus ou moins disparaître après la Première Guerre mondiale, au moment de l'exposition coloniale de 1931. Il n'y a pas de zoo humain dans l'exposition coloniale, mais en bordure, il y a des entrepreneurs, hein, comme des entrepreneurs de cirque, qui ont un petit zoo humain. Donc ça se maintient jusqu'à ce moment-là. Mais ça n'est pas le propos de l'exposition. L'exposition est une exposition de beaux-arts, et le propos de cette exposition est justement plus nuancé, avec une relation directe entre le peintre et le modèle, qui n'existe pas dans les publicités Banania.
On se retrouve dans quelques instants. Pape Ndiaye, professeur d'histoire à Sciences Po, conseiller scientifique de cette exposition Le Modèle Noir, dont vous êtes la co-commissaire, Cécile Debray. Vous serez rejoint dans une quinzaine de minutes par Lilian Thuram, qui est président de la Fondation Éducation contre le racisme. Il est 8h sur France Culture. Et c'est une exposition qui s'ouvre au musée d'Orsay à Paris, Le Modèle Noir, une exposition avec un regard inédit en France sur la question de la représentation des Noirs depuis l'abolition des esclavages et jusqu'au milieu du XXe siècle. Une exposition dont nous avons parlé avec Pape Ndiaye, qui est professeur d'histoire à Sciences Po et conseiller scientifique de cette exposition. Cécile Debray, qui est co-commissaire de cette exposition. Nous accueillons Lilian Thuram, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fondation Éducation contre le racisme et vous avez donné une postface au catalogue de cette exposition, Le Modèle Noir. Je vais citer une phrase de cette postface, Lilian Thuram, pour que vous nous disiez ce que vous avez cherché à dire au travers de cette postface. Le corps noir, dites-vous, n'existe que par le regard blanc. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que dans cette exposition, vous voyez parmi les tableaux et au-delà dans la représentation du modèle noir et peut-être d'un modèle blanc?
Écoutez, effectivement, lorsque vous regardez un tableau, c'est pas anodin le positionnement du corps noir sur le tableau. Ça raconte une histoire. Très souvent, ça raconte l'histoire d'une domination. C'est-à-dire qu'effectivement, nous parlons d'une histoire après esclavage, mais très souvent, le corps noir est à disposition du corps blanc, même lorsque vous observez un tableau. Parce qu'en fait, le corps noir, depuis des siècles, en fait, est positionné comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un schéma de domination, comme un schéma de domination entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les personnes noires sont à disposition du corps blanc. Donc c'est pour cela que je dis que quand on parle du corps noir, on parle aussi du corps blanc.
Je crois que vous vous êtes interrogé sur le titre d'un tableau, Lilian Thuram.
Oui, effectivement. C'est aujourd'hui, ce tableau s'appelle Portrait de Madeleine. je crois bien. Et en 1800, c'était Portrait d'une négresse. Et je crois qu'en 2000, il y a eu une réflexion en disant il faut qu'on change ce titre. Et le titre est devenu Portrait d'une femme noire. Et je suis persuadé qu'à l'époque, certains ont dû penser que c'était une grande avancée. Et je trouve que non, parce qu'effectivement, c'est encore enfermer le personnage dans sa couleur de peau. Et donc j'espère que à la fin de cette exposition, le musée du Louvre adoptera le titre de cette exposition aujourd'hui.
Cécile Debray, vous qui êtes co-commissaire de l'exposition.
Je pense que c'est un des aspects majeurs de cette exposition que de remettre en cause, en tout cas, notre propre pratique en tant que conservateur du musée. Et à l'issue de ce travail, effectivement, on s'est interrogé sur les titres des tableaux. Vous avez tout à fait raison. Alors, on est arrivé aujourd'hui au portrait de Madeleine parce qu'on a réussi à identifier par un travail d'historien l'identité du modèle. Mais je dirais qu'on est allé un peu plus avant dans ce travail de réflexion sur les titres qu'on donne aux tableaux. Et on a débaptisé un certain nombre de nos tableaux.
Par exemple
la plupart de ces portraits ou d'études sont souvent effectivement qualifiés de femmes noires ou négresses ou mulâtresses. Je pense même à des tableaux de Matisse, comme on a le portrait de la petite mulâtresse. Ce sont donc des qualificatifs qui sont en fait plutôt une sorte de typologie issue d'un contexte racial de l'époque, mais qui finalement ne dit rien non plus d'un titre original qui viendrait d'un artiste. Et donc on a choisi effectivement portrait d'une jeune fille ou portrait d'une femme, portrait d'un homme, de façon plus juste et qui est plus en accord avec notre façon d'aborder les choses. Donc juste pour conclure là-dessus, c'est que c'est quand même une exposition qui a le mérite de vraiment de nous interroger nous-mêmes, je dirais professionnels des musées ou historiens d'art sur ces questions.
Vignon Thuram, on a évoqué l'ambivalence du regard des Blancs sur le corps noir, mais aussi, finalement, parce que c'est ce que cette exposition montre, la place ou la non-place que les Noirs ont dans des sociétés qui, à l'époque où ces tableaux ont été peints, se pensent comme blanches. Et on voit finalement la marginalisation des Noirs ou leur rôle à l'époque. Qu'est-ce que ça vous inspire lorsque vous avez rédigé cette postface?
Écoutez, moi je pense qu'à chaque fois que vous allez dans une exposition, l'idée est d'essayer de comprendre qu'est-ce que cette exposition raconte sur la société d'aujourd'hui. Et je pense que nous sommes malheureusement dans une situation où le corps noir est vu, où on demande quelque chose au corps noir, de se soumettre, mais le corps blanc n'est pas vu. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, les tableaux, on ne disait pas « portrait d'une femme blanche », c'était « portrait d'une femme ». Et aujourd'hui encore, malheureusement, nous sommes dans des situations de domination. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour une personne noire d'échapper à sa couleur. On a toujours tendance à le renvoyer à sa couleur, et je pense que nous devons réfléchir à cela. C'est-à-dire que nous vivons dans des sociétés où, selon votre couleur de peau, vous ne vivez pas de la même façon l'espace public. C'est ça la réalité. Et je pense que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de cela. Et je pense que l'État devrait garantir l'égalité dans l'espace public.
C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, par exemple, pour poursuivre sur cette exposition, une exposition sur le modèle blanc?
Ben écoutez, ce serait intéressant, effectivement, de se questionner sur le corps blanc. Qu'est-ce que c'est? Comment ça a été construit? Pourquoi c'est très difficile de se sortir de ces schémas de couleur blanc, de couleur noire?
Alors, cela a été fait...
Cécile Debray.
Par rapport, je dirais, à la question des femmes. Parce qu'il y a vraiment des sujets parallèles. Quand on parle du corps, il y a aussi la question du féminisme. Et la question... je pense, moi, à une exposition qui a eu lieu au Centre Pompidou, qui s'appelait « Elle à Centre Pompidou », à laquelle j'ai participé, où... On se posait des questions parallèles sur la question du corps des femmes artistes, et donc une autre minorité très majoritaire, mais qui posait le même type de questions.
Vignon Thuram ?
Ben, en fait, c'est très amusant parce que très souvent, nous avons tendance à questionner les personnes qui sont discriminées dans la société. Et moi, je pense qu'il faut inverser les choses, c'est-à-dire que ce serait intéressant une exposition sur qu'est-ce que c'est être un homme.
Même si, les groupes dominants sont également dominants dans les représentations. Et donc, une exposition sur le modèle blanc, ce serait une exposition sur un énorme pan de la peinture occidentale. Du point de vue du portrait. Donc, ce qui me paraît plus significatif aujourd'hui, même s'il y a le développement d'un champ d'études qui s'appelle la blanchité, hein, on montre comment le fait d'être blanc n'est pas une notion stable, mais que différents groupes ont pu ne pas être blancs et le sont devenus. Aux États-Unis, les Italiens, les Irlandais, les Juifs, par exemple, qui n'étaient pas tout à fait blancs et qui le sont devenus progressivement. Donc on peut en faire l'histoire. Mais du point de vue de la peinture, le modèle noir, c'est parce que le modèle noir a été pensé, comme vous disiez, comme tel, c'est-à-dire avec un corps particulier, avec une couleur particulière, et associé à cela des stéréotypes particuliers. En France, quand
on est... stéréotypes ? Parce que cette exposition, donc, elle embrasse une large période de temps. Elle débute donc au 18e, elle finit vers 1930, je crois.
40.
Cécile Debray, lorsque l'on prend cette période historique, quelles sont les principales évolutions? C'est compliqué de vous demander de résumer ça en quelques mots, Pape Ndiaye, mais...
Alors, s'il y a quand même une donnée lourde, me semble-t-il, jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand on est noir dans la société française, on est vu comme venant d'ailleurs. On doit répondre à la question « d'où est-ce que vous venez ?» Voilà, c'est la réponse quand même, la question classique, parce qu'on n'est pas tout à fait français, on est réputé venu des îles, comme on disait dans les années 20 à propos de Joséphine Baker, ou de d'une quelconque région. Donc ça, c'est quand même une donnée qui traverse l'exposition et qui traverse ce qu'on pourrait appeler l'expérience noire en France. Après, l'évolution interne de l'exposition, c'est, me semble-t-il, une évolution où le monde noir venu des Antilles et surtout de Saint-Domingue est très important dans la première partie de l'exposition. Et ensuite, l'exposition glisse progressivement vers le monde noir américain qui devient très important dans l'exposition à partir des années 20.
Lilian Thuram, qu'est-ce que vous en pensez dans cette évolution lorsqu'on voit donc à la fois l'ambivalence à l'égard du corps noir et puis aussi la permanence d'un certain nombre de clichés, d'un certain nombre de stéréotypes?
Mais je suis assez d'accord sur le fait que le corps noir est illégitime. C'est ça. Illégitime dans le fait de ne pas être reconnu comme étant du lieu. Et illégitime dans la manière dont le corps noir peut se penser. C'est-à-dire que on a tendance à ne pas écouter. C'est-à-dire un corps noir qui va revendiquer quelque chose, qui va demander l'égalité, qui va essayer d'expliquer sa situation, sa difficulté, très rarement est écoutée. Et en fait, c'est ça, je pense, qu'on peut avoir comme fil historique.
Par exemple, dans la société, quels sont les faits qui vous semblent refléter effectivement ce type de stigmatisation ou de discrimination?
Ben écoutez, par exemple, lorsque vous dites que l'État ne garantit pas aux personnes de couleur noire une certaine égalité dans l'espace public, vous n'êtes pas compris, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, vous qui êtes une personne noire, vous savez que le rapport à la police n'est pas un rapport d'égalité. C'est-à-dire que la police, normalement, devrait garantir l'égalité dans l'espace public. Mais quand vous êtes une personne noire, vous savez qu'effectivement, vous avez une probabilité d'être contrôlé beaucoup plus importante. Donc, normalement, l'État devrait s'attarder en disant, effectivement, ce n'est pas juste. Mais lorsque vous le dites... On vous dit, mais il faut arrêter de se victimiser. C'est-à-dire que, effectivement, vous êtes victime dans la société, mais on vous reproche de vous penser comme victime. Par exemple, je pense qu'il est très difficile à comprendre que les personnes noires, parfois, puissent se rencontrer, se parler, mettre une stratégie en place pour faire évoluer les choses. On va vous dire que vous n'avez pas le droit. Ça veut dire que peut-être que...
C'est du séparatisme.
Du communautarisme.
Ouais, c'est un complot, pire. Parce que historiquement, des personnes noires qui se réunissent et qui parlent, ça ne peut être qu'un complot. Mais la réalité, c'est que si vous voulez changer les choses, je pense que historiquement, toutes les personnes qui subissent les mêmes problématiques se réunissent, réfléchissent et questionnent le pouvoir pour que ça puisse, que les choses changent.
Une réaction, Pape Ndiaye, plus généralement, ce qu'évoque Lilian Thuram, donc le racisme d'État ou ce qu'on appelle le racisme structurel.
Systémique, oui.
Justement, peut-être une définition et votre regard là-dessus, sur ces différents termes.
C'est le fait donc que le racisme en France ne relève pas d'individus qui se comporteraient mal à l'échelle de leur propre psyché, mais d'institutions, de dispositifs généraux, comme la police, par exemple, dont on parlait. Il y a un problème de racisme systémique dans la police française qui pèse en effet très lourdement sur les personnes noires, qui est un sujet de préoccupation quotidien pour des milliers, des dizaines de milliers de concitoyens.
Ça se combat comment, Pape Ndiaye ?
Alors ça, c'est ce qu'on appelle le racisme systémique. Moi, je suis beaucoup plus réservé à l'égard de la notion de racisme d'État, qui impliquerait que l'État tout entier serait un État raciste, ce qui ne me semble pas juste en France, car il y a des institutions d'État qui combattent le racisme. Ça se combat comment ? Eh bien, ça se combat pas seulement par, justement, des approches individuelles, mais par des réformes. Il faut envisager, en effet, des réformes dans la manière dont les policiers, par exemple, sont formés, sont entraînés, dans la manière dont ils interagissent avec la population. C'est un combat, c'est un chantier, évidemment, de grande haleine. Et puis, il y a deux autres secteurs, qui sont des secteurs majeurs, où l'expérience quotidienne du racisme se fait sentir. C'est la question du travail, l'accès au travail et la promotion dans les organisations publiques et privées, qui est une question majeure pour les Noirs dans ce pays. Et puis aussi une question qui est la question du logement. Louer un logement quand on est noir, c'est pas facile. Et pour reprendre ce que disait Lilian Thuram, quand on dit ça aujourd'hui, on a l'impression de dire quelque chose d'incroyable et personne ne vous croit. Et moi, je vous dis qu'être noir, c'est avoir des difficultés pour louer un logement. On vous dit oui au téléphone et quand vous vous présentez, eh bien, on vous dit que le logement en question a été loué. Le logement, le travail, les relations avec la police, ce sont des secteurs extrêmement problématiques.
Incroyable, en tout cas, illégal par rapport, et là on voit bien l'évolution par rapport à la situation qui est décrite ou évoquée dans les tableaux que vous présentez, Cécile Debré.
Oui, on parlait aussi du monde de la culture, pour rester sur le même terrain. C'est vrai que dans le domaine des musées, dans le domaine de l'université, on est frappé effectivement par la minorité que constituent nos collègues noirs. Donc je dirais là, moi, en tant que conservateur de musée, je ne peux que effectivement que faire ce constat, et c'est aussi en travaillant sur cette exposition que cette réalité nous est parue encore plus flagrante. Hein.
Et dans le domaine du cinéma, écoutez Aïssa Maïga, c'était à la grande table.
J'ai choisi aussi d'inviter ces actrices aux âges différents, aux parcours de vie différents. Certaines viennent d'Afrique, d'autres des Antilles. Certaines sont arrivées adultes en France, d'autres au contraire ont grandi ici. Pour montrer d'abord que la figure de la femme noire, c'est quand même une invention. Ce qu'on constate à la lecture, c'est que les choses que j'ai pu traverser, ou qu'une Firmin Richard ou France Zobda ont pu traverser, des jeunes filles de 20, 22, 24, 25 ans le vivent encore aujourd'hui. La différence, c'est peut-être qu'il y a un peu plus d'acteurs noirs, même s'ils ne sont pas visibles, peut-être qu'on est un petit peu plus nombreux, mais finalement, le regard posé sur le corps, comment dire, le corps des femmes noires est souvent considéré comme étant proche de l'animal, avec une sexualité qui est supposée être tout à fait débridée. Enfin voilà, il y a tout un tas de clichés, de fantasmes qui existent encore aujourd'hui.
La voix d'Aïssa Maïga, elle évoquait son livre « Noir n'est pas mon métier ». Une réaction, Lilian Thuram ?
Ben écoutez, c'est tout à fait compréhensible que le corps noir de la femme ou de l'homme soit vu d'une certaine façon, parce que c'est lié à notre culture. Nous sommes empris de préjugés. Et je pense qu'il faut questionner ces préjugés et ne pas avoir honte. Parce que très souvent, on a du mal à discuter de ces sujets parce que beaucoup de personnes ont honte. Non, nous avons des préjugés sur le corps noir et nous devons débattre de cela. Et pour débattre de cela, il faut mettre en place un dialogue. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnes qui renferment les noirs dans leur corps, c'est avant tout des personnes blanches. Parce que eux-mêmes sont enfermés dans leur couleur et ne se rendent pas compte.
8h40 sur France Culture, on continue d'évoquer le modèle noir, une exposition au musée d'Orsay à Paris. Et au travers de cette exposition, la représentation des Noirs, nous sommes en compagnie de Cécile Debré, co-commissaire de l'exposition, Pape Ndiaye, conseiller scientifique, et Lilian Thuram, qui préside la fondation Éducation contre le racisme. Vous êtes ancien footballeur, Lilian Thuram, justement dans la représentation du corps noir, le sport, la question du sport est une question centrale. Est-ce qu'il y a là aussi quelque chose qui bouge ?
Ben écoutez, très peu, parce que moi je fais beaucoup de rencontres dans les écoles. Et quand je demande aux enfants est-ce que les personnes noires sont plus forts en sport, ils vous répondent de oui. Et c'est dramatique. Et je leur dis, voilà, si les personnes noires sont plus forts en sport, ben les personnes blanches sont plus forts en quoi ? Là, il y a un silence et il y a quelques voix qui disent, ils sont plus intelligents. Ben effectivement, voilà pourquoi c'est extrêmement dangereux d'enfermer les personnes noires dans le sport.
Et j'ai lu aussi qu'il y avait des représentations. Alors, par exemple, pour les nageurs, on considère que les noirs ne sont pas aussi bons nageurs que les blancs. Avec, il y a eu toute une série d'études aux États-Unis là-dessus, avec de vrais problèmes de discrimination là-dessus.
Ben effectivement, c'est vrai que on revient très souvent avec les enfants de parler de la natation, et je leur explique que la grande majorité des personnes noires se retrouvent en Afrique, et effectivement, pour être un très très bon nageur, culturellement, il faut aller à la piscine, il faut s'entraîner, et donc voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes noires qui sont extrêmement forts à la natation. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau.
Oui, alors il y avait même Pape Ndiaye. Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir là-dessus.
Il y avait toute une théorie comme quoi les personnes noires ont des corps plus denses.
Voilà, et donc c'était à celle-là que je faisais référence.
Je me souviens très bien, enfant, d'un prof de sport qui m'avait déconseillé de faire de la natation alors que j'avais envie de faire de la natation parce qu'il m'avait expliqué que je flottais moins bien que les autres enfants.
Donc effectivement, j'ai vu que cela perdurait encore dans les organisations sportives. Comment on peut faire pour faire évoluer cela, Lilian Thuram ? Parce que donc sur le plan légal, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. C'est insuffisant dès lors que cela perdure. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà ?
Ben écoutez, je pense que ce serait intéressant d'enseigner l'histoire du racisme, parce qu'il y a une histoire. Il y a une grande profondeur historique et la grande majorité des gens ne connaissent pas cette histoire-là. Et très souvent, encore une fois, les personnes qui vivent le racisme dans leur corps, qui connaissent l'histoire du racisme, lorsqu'ils interviennent pour essayer de faire changer les choses, on leur fait comprendre qu'ils sont mal placés pour en parler.
Mais vous, par exemple, on vous a fait comprendre que vous étiez mal placé ?
Ben écoutez, parfois ça peut arriver. Certaines personnes ne comprennent pas en fait ma démarche. Moi, j'essaie de travailler pour l'égalité, mais certaines personnes pensent que vous travaillez pour une minorité noire. Mais c'est extrêmement violent. C'est comme, vous savez, lorsqu'on parle de Martin Luther King, on dit toujours il a lutté pour les noirs. Non, il a lutté pour l'égalité.
Pape Ndiaye, l'accusation, puisqu'en fait c'est le soupçon de communautarisme qui est aujourd'hui à l'œuvre.
Oui, c'est classique en France. Pour reprendre la référence à Martin Luther King, c'est bien en se battant pour une cause, celle des Noirs américains, qu'on touche à l'universel. Le singulier et l'universel ne s'opposent pas. Jaurès le disait déjà à propos du monde ouvrier. Il se bat au nom du monde ouvrier et par là, il se bat au nom de l'universel. Donc, faire une distinction entre ce qui relèverait d'un combat singulier, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les homosexuels, que ce soit pour n'importe quel groupe victime de différentes formes de discrimination. On peut aussi penser aux détenus, on peut aussi penser aux travailleurs du sexe, enfin, que sais-je, des gens qui sont profondément stigmatisés moralement. Se battre pour eux, ça n'est pas évidemment tourner le dos à l'universel.
Mais alors, pourquoi ça marche aussi mal ? On a débuté cette discussion en parlant de Ferguson aux États-Unis, de Black Lives Matter et de la manière dont aux États-Unis une situation de racisme dramatique. Les statistiques sont effrayantes sur le taux, par exemple, de personnes noires incarcérées. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout à cet égard. Et dans le même temps, il y a pourtant un certain nombre de discours, notamment universitaires, qui sont très radicaux. Comment expliquer que ces discours radicaux, finalement, n'aient, semble-t-il, aucune incidence ? disant sur la société ?
Parce qu'il y a une disjonction profonde entre, d'un côté, le monde intellectuel, ou plutôt le monde universitaire, qui, aux États-Unis, est un petit peu enfermé dans une tour d'ivoire, volontairement ou pas, et puis, d'autre part, une société américaine qui est profondément travaillée par les courants du suprémacisme blanc, du nativisme, avec Trump, évidemment.
Le nativisme, il faut définir
donc, l'idée qu'être américain, c'est être blanc, et c'est relevé d'une identité ethnique particulière avec Trump à la Maison-Blanche. Donc cette disjonction-là, elle est moins évidente en France. Il y a plus de porosité entre le monde intellectuel, le monde universitaire et puis la société française.
Cécile Debré ?
Oui, non, pour revenir un petit peu sur notre sujet de l'exposition, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de chemin à faire, mais voilà, déjà le fait qu'un musée des beaux-arts comme celui d'Orsay puisse aborder cette question par le biais de son domaine, c'est-à-dire celui de l'histoire de l'art, est aussi, en tout cas nous l'espérons, est aussi une manière de montrer à un public, peut-être à un jeune public, une histoire des communautés noires au XIXe siècle, de ce rapport dans le monde des artistes et de l'histoire même politique de ces communautés. Donc c'est effectivement il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la culture, je le disais, de l'université, des musées et voilà, je suis assez fière en tout cas de ce qu'on a essayé de construire autour de cette exposition. C'est une exposition qui va être présentée à Pointe-à-Pitre, au Mémorial Act. Je pense que c'est voilà, dans le nombre d'actions amenées, évidemment ça n'est qu'une action, mais elle est suffisamment importante à souligner.
Lilian Thuram, vous qui présidez la fondation Éducation contre le racisme, pourquoi les victimes de racisme en France n'arrivent-elles pas à se lier, si vous êtes d'accord avec cela? Moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement de plus en plus de difficultés à considérer que le racisme est un, et il y a de plus en plus effectivement de réticence, de négation. Vous parliez tout à l'heure de lorsque l'on évoque le racisme, on est perçu comme étant en train de se victimiser.
Ben écoutez, tout d'abord, je pense que il est important de faire le lien entre toutes les formes de racisme, et c'est montrer qu'effectivement, ce sont avant tout des schémas de domination, de hiérarchie dans la société. La plus vieille hiérarchie, c'est la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Et c'est extrêmement compliqué d'aller vers l'égalité. Parce que lorsque vous êtes une femme, vous revendiquez l'égalité. Parfois, les hommes peuvent se sentir déclassés. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont gagnants lorsqu'il y a des discriminations. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut questionner les groupes dominants qui profitent en fait des discriminations, parce que ces personnes-là doivent avoir l'intelligence de se remettre en question.
Et l'on voit, alors ça pour moi c'est l'un des dangers les plus réels du moment, un retour d'un néo-darwinisme qui n'a absolument rien à voir évidemment avec des théories scientifiques quelconque Papendiaï, ce sont des théories extrêmement présentes aux États-Unis. Et on a vu des nativistes boire du lait récemment parce que, je ne sais pas si vous n'avez pas vu ça, parce qu'en fait, donc dans ce délire néo-darwiniste et nativiste, on considère qu'il y a donc une race qui serait la race blanche et que cette race blanche n'aurait pas d'intolérance au lactose, contrairement aux autres races. Bon, tout ça évidemment n'a absolument aucun fondement à la fois scientifique et évidemment génétique, mais ce qui est inquiétant, c'est que, y compris dans des domaines qui ne sont pas du tout racistes, évidemment, ce néo-darwinisme, il a de plus en plus de poids.
Oui, et cela me fait penser que l'idée classique d'une forme de progressisme par lesquelles on envisagerait l'histoire comme repoussant progressivement les idées les plus farfelues, la science s'imposerait, grâce à l'éducation, le racisme s'évaporerait logiquement. Toutes ces idées qui avaient présidé, par exemple, à la fondation de l'UNESCO au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on en est largement revenu au vu de ce qu'on voit aujourd'hui, du retour extrêmement fort dans le monde scientifique de ce genre de conception, dans un monde scientifique marginal, mais qui est quand même très puissant par les réseaux internet, et puis également dans la politique avec des courants, disons populistes d'extrême droite, qui font de la défense de l'identité blanche un élément central de leur discours politique, et cela va du Brésil aux États-Unis, de la Hongrie à la France du côté des extrêmes droites.
Donc le Brésil, c'est pas rien, parce que c'était donné comme une société absolument multiculturelle.
De la démocratie raciale, etc. Et c'est dans ce pays-là qu'on a affaire à ce genre de personnage.
Un mot de conclusion, Lydian Thuram.
Mais la conclusion, ce serait que je pense profondément qu'il y a moins de racisme aujourd'hui qu'avant. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que mon grand-père est né en 1948, 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Ma mère est née en 1947, il y avait la ségrégation aux États-Unis, notre pays colonisait d'autres pays. Moi, je suis né en 72, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Et il y a moins de racisme parce que nous sommes en 2019 et il y a une exposition qu'il faut aller voir au musée du Quai d'Orsay. Et je pense qu'il y a quelques années de ça, il n'y aurait pas eu cette exposition. Donc je pense que effectivement, nous sommes de plus en plus à être choqués par le racisme, et je pense que c'est une bonne chose.